France Musique. Musicopolis. Malheur, symphonie numéro 2, mort et résurrection. Le 13 décembre 1895, Gustav Mahler vit l'une des soirées les plus importantes et aussi les plus difficiles de toute sa vie. Son ami Bruno Walter écrit « Le jour même où il joue son avenir de compositeur sur une seule carte, il est terrassé par la plus cruelle des migraines, incapable de bouger ni de participer à rien. » C'est par un effort surhumain que Gustav Mahler réussit à grimper sur le podium et à commencer à diriger, d'abord un peu raide, très pâle, puis de mieux en mieux. Le premier mouvement est chaleureusement applaudi. Peu à peu, le public se laisse emporter. La sœur de Mahler écrit « On aura peine à jamais revivre une telle intensité dans l'enthousiasme. J'ai vu pleurer des hommes adultes et, à la fin de l'ouvrage, des jeunes gens s'embrasser. » Le public de la création de la deuxième symphonie de Mahler à Berlin en cette soirée du 13 décembre 1895 est très particulier. C'est que la location n'a pas bien marché du tout et que pour ne pas jouer devant une salle vide, on a distribué les places gratuitement à des musiciens et à des élèves du conservatoire. Un public conquis. Joseph Förster, ami compositeur de Mahler, écrit qu'une victoire a été gagnée ce soir-là pour toujours. Il y a 8 ans que Gustav Mahler a commencé à composer cette œuvre gigantesque, ou plutôt à en composer le premier mouvement, qu'il appelle « Totenfeier », « Rite funèbre ». Il est alors à Leipzig, où il dirige « Die drei Pintos », opéra inachevé de Weber, qu'il a complété et qui est donné avec un immense succès à l'opéra. Pendant qu'il compose, son ami le critique Steinitzer dit qu'il est « comme enivré de la beauté du monde et de celle des sons qu'il porte en lui ». Pendant que Mahler compose son Totenfeier immédiatement après le succès de la première des Drei Pintos, alors que sa chambre est pleine de fleurs, il se voit un jour lui-même étendu dans son cercueil, entouré de fleurs et de couronnes. Pourtant, ce n'est pas une œuvre autobiographique. Il écrit « C'est le héros de ma première symphonie, celle qu'il a appelée Titan, que l'on enterre. Et c'est sa vie qui s'y reflète, comme dans un miroir, à partir d'un point de vue privilégié. » Lorsqu'il aura terminé sa deuxième symphonie, Gustav Mahler insistera bien sur le fait que ce n'est pas un poème symphonique. Et cependant, à plusieurs reprises au cours des années suivantes, à l'occasion de concerts, il écrit un programme qui nous apporte de sérieuses clés d'écoute. Pour le Totenfeier initial, il s'est inspiré d'un poème d'Adam Mickiewicz. « Nous sommes, écrit Mahler, près du cercueil d'une personne qui nous est chère. Sa vie, ses combats, sa souffrance et son effort de volonté défilent une dernière fois aux yeux de notre esprit. Et voici que, en ce moment si grave et si profondément bouleversant, où l'on se débarrasse comme d'un manteau inutile de tout ce que la vie de tous les jours a d'étourdissant, d'avilissant, une voix grave et sévère nous saisit au cœur. Que te réserve l'avenir ? Quelle est donc cette vie et quelle est donc cette mort ? Y aura-t-il pour nous une survie ? Est-ce que tout cela n'était donc qu'un rêve vide et absurde ? Ou bien est-ce que cette vie et cette mort auraient un sens ? Telles sont les questions auxquelles il nous faut répondre si nous devons continuer de vivre. Lorsque Mahler commence à Leipzig son Totenfeier, qui deviendra le premier mouvement de la deuxième symphonie, il a 27 ans. Il a déjà composé pas mal d'œuvres, symphoniques ou vocales, mais en dehors de son arrangement des Drei Pintos, il n'a pas rencontré le succès. En revanche, il est tout à fait reconnu comme chef d'orchestre. Après avoir quitté Leipzig en 88, il se rend quelques mois à Prague. C'est là qu'il achève le mouvement. Dans le souvenir de son grand amour impossible pour Marion von Weber, l'épouse du petit-fils du compositeur des Drei Pintos. En octobre 1888, Mahler est engagé à Budapest pour diriger l'Opéra Royal Hongrois. C'est un énorme travail et la composition est laissée de côté. Trois ans plus tard, en mars 1891, il quitte Budapest pour un poste équivalent à Hambourg. Là, il est tout de suite remarqué par Hans von Bülow, très grand pianiste et chef d'orchestre qui défend depuis longtemps les jeunes musiciens, notamment Richard Strauss. Mahler songe tout de suite à lui montrer son Totenfeier, achevé depuis déjà trois ans. Il lui joue donc la partition au piano, fin septembre 91. Pendant que Mahler joue, Bülow se bouche les oreilles. Et à la fin, il dit « Si ce que j'ai entendu là est de la musique, alors je ne comprends plus rien à la musique. » Il ajoute qu'en comparaison de cette œuvre, Tristan et Isolde de Wagner lui fait l'effet d'une symphonie de Haydn. Mahler doute. Il se lasse de composer pour le tiroir. Il écrit à Strauss « Bülow a failli rendre l'âme pendant que je lui jouais une de mes œuvres. Vous n'avez jamais rien connu de ce genre et vous ne pouvez certainement pas comprendre que l'on finisse par perdre confiance. Eh, mon Dieu, l'histoire du monde pourra bien se poursuivre sans mes œuvres. Malgré le travail harassant à l'opéra, malgré les doutes quant à ses talents de compositeur, en février 1892, Mahler compose et orchestre 5 lieder sur des textes du recueil populaire du Knaben Wunderhorn. Mais le Totenfeier est toujours tout seul, avec juste une vague idée de poursuivre et de lui ajouter d'autres mouvements. L'été 1893, en vacances, Mahler reprend quelques thèmes dansants qu'il avait notés 5 ans plus tôt, lorsqu'il composait le Totenfeier, et il va en faire l'andante de sa symphonie. Il confie à son amie Nathalie « La mélodie coule comme un large torrent, à la manière de Schubert. Elle crée sans cesse de nouveaux bras. Elle s'élargit avec une richesse et un renouvellement inépuisables, donnant lieu aux enchevêtrements les plus variés. » Dans le programme qu'il donnera plus tard de sa symphonie, poursuivant l'idée des funérailles de son héros, Mahler écrit de l'andante que c'est « un moment heureux de la vie du cher disparu et un souvenir nostalgique de sa jeunesse et de son innocence perdue ».
Antonius so predigt die Kirche friedlich, geht zu den Flüssen und predigt den Fischen, sie schlang mit den Schwänzen, im Sonnenschein glänzen, im Sonnenschein, Sonnenschein glänzen, sie glänzen, sie glänzen.
Le même été 1893, où il compose l'andante de sa deuxième symphonie, Mahler continue à mettre en musique quelques textes du Knaben Wunderhorn, en particulier le sermon de saint Antoine de Padoue au poisson, qui lui fournit à la fois un lied orchestral et la matière pour le scherzo de la symphonie. Dans le texte du Lied, le sermon de saint Antoine de Padoue, le saint, ne trouvant personne à l'église, va vers les rivières et prêche les poissons. Tous les poissons accourent pour l'écouter et aucun prêche ne leur a jamais autant plu. Néanmoins, le sermon fini, chacun s'en retourne. Le prêche leur a plu, mais il est oublié. Les poissons sont restés les mêmes qu'avant. Une ironie qui faisait beaucoup rire Malheur, qui imaginait les poissons sortant la tête hors de l'eau pour écouter Saint-Antoine. Pourtant, dans le programme de la symphonie, il n'est pas question d'humour à propos du scherzo, le mouvement inspiré par le Lied. Le héros, selon Malheur, doute de lui-même et de Dieu. Le dégoût de toute existence et de tout devenir le saisit comme un point d'acier et le tourmente jusqu'à lui faire pousser un grand cri de désespoir. Pendant le même été 1893, où il compose le deuxième et le troisième mouvement de sa deuxième symphonie, Malheur orchestre un autre Lied qu'il a composé en version piano-chant l'année précédente, Urlicht, Lumière originelle. Il a probablement déjà l'intention de l'intégrer à sa symphonie, d'une manière ou d'une autre. Ô petite rose rouge, chante la contralto. La voix touchante de la foi naïve résonne à notre oreille, écrit Malheur dans son programme. Je viens de Dieu et je retournerai à Dieu. Le Dieu d'amour me donnera la lumière, il m'éclairera le chemin jusqu'à la félicité éternelle. Dès la fin de l'été 1893, Malheur a l'idée d'un grand mouvement avec chœur pour clore sa deuxième symphonie. Mais il lui faut un texte. Il parcourt tous les livres qu'il peut à la recherche du texte idéal. Jusqu'au jour de mars 1894, où il assiste aux funérailles de Hans von Bülow. L'atmosphère, la circonstance dans laquelle je me trouvais, écrit Malheur, et les pensées que je dédiais aux disparus correspondaient étroitement à l'œuvre que je portais alors en moi. Tout à coup, le chœur, avec accompagnement à l'orgue, a entonné le choral de Klopstock, Auferstehen, ressuscité. Ce fut comme un éclair qui me traversa. La lumière jaillit dans mon âme. Tel est l'éclair qui attend le Créateur. Telle est l'inspiration sacrée. Ce que j'avais vécu alors, il me fallait ensuite le créer avec des sons. C'est ainsi que tout se passe toujours en moi. C'est seulement lorsque j'éprouve que je crée, et seulement lorsque je crée que j'éprouve. Dans le programme qu'il écrit pour donner les clés de sa deuxième symphonie, Malheur dit qu'au début du cinquième mouvement, nous sommes à nouveau confrontés aux questions qui ont amené au cri déchirant du scherzo. C'est alors que la terre tremble. C'est l'heure du jugement dernier. Le grand appel résonne, écrit Malheur. Les trompettes de l'apocalypse hurlent. Dans le silence affreux, nous croyons reconnaître un rossignol lointain, lointain comme un dernier écho de la vie terrestre. Doucement, résonne alors le cœur céleste des bienheureux. Ressuscité, oui, tu vas ressusciter. La sœur de Mahler, Justine, a raconté qu'à la création de l'œuvre en décembre 1895, après le chant du rossignol, le silence était tel qu'on aurait entendu une mouche voler et que l'entrée du chœur avait produit un effet indescriptible. C'est alors, écrit Mahler dans son programme, que paraît la splendeur divine. Une douce et merveilleuse lumière nous pénètre jusqu'au cœur. Tout est calme et heureux. Et voici qu'il n'y a plus ni justice, ni pécheur, ni juste, ni grand, ni petit, ni châtiment, ni récompense. Un sentiment tout-puissant d'amour nous remplit de certitude et nous révèle l'existence bienheureuse. Le final de la symphonie numéro 2 de Gustav Mahler, dite « Résurrection », Anna Larsson contralto, Eterik Vasava soprano, le chœur Orfeon Donostiara, l'orchestre du Festival de Lucerne, dirigé par Claudio Abbado, enregistré en concert le 19 août 2003. Programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis et sur l'appli Radio France. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Élise Cravette pour les recherches et le site, Philippe Thibault pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.